Bonjour, la danse des mots sur RFI, et nous avons rendez-vous avec Marie Treps, qui est linguiste et sémiologue, et qui vient de faire paraître aux éditions Tohu Bohu un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Maudits mots, et qui s'attaque à un problème à la fois difficile, violent, douloureux. C'est sous-titré La fabrique des insultes racistes, et dans ce livre, on se demande, on étudie la façon dont on nomme quelqu'un quand on veut l'insulter en même temps. On étudie la façon dont on traite quelqu'un, dans tous les sens de ce mot. Traiter de ceci, traiter de cela, c'est l'insulter, mais l'insulter du seul fait qu'on le nomme. Bonjour Marie Treps.
Bonjour.
Merci donc pour ce beau travail et ce gros travail. Merci de venir en parler. Donc vous vous êtes intéressée à la façon dont ça se fabrique justement ces insultes racistes. D'abord, est-ce que les insultes racistes, vues d'un point de vue, disons, francophone et même français, est-ce qu'elles concernent toutes les nationalités, tous les peuples et de façon égale?
Elles concernent c'est pléthorique, il y en a beaucoup. Mais elles ne concernent pas tout le monde. Elles sont nées de la rencontre de la société française avec des autres. Alors des autres très lointains, ce qui est le cas, ce qui s'est passé au cours des conquêtes coloniales, des traites négrières d'abord au XVIIIe siècle, au siècle suivant des conquêtes coloniales et de leurs conséquences. Par exemple, l'enrôlement de la main-d'œuvre et des soldats dans les guerres mondiales. Et puis aussi, il y a eu des conséquences économiques à cette colonisation du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne et de l'Indochine. Des conséquences économiques, ce qui a donné lieu à des migrations plus tardives et qui sont encore aujourd'hui doublées des migrations scolaires ou climatiques de gens qui viennent d'anciens territoires coloniaux. Et puis il y a des autres un peu plus proches qui sont venus à la demande de la France pour résoudre des problèmes économiques.
Pour travailler, hein, bien
sûr. Dans le nord-est et dans le nord de la France, les Polonais, les Russes, et puis les Italiens, les Portugais, les Espagnols. Et là, ça s'est doublé d'une immigration politique pour les Italiens qui ont fui le franquisme, les Espagnols qui ont fui le franquisme.
Les Italiens qui ont fui Mussolini, les Espagnols qui ont fui le franquisme, et les Portugais, Salazar.
Ouais. Voilà. Et alors, dans les périodes de crise économique, les émigrés économiques ont été un petit peu maltraités, stigmatisés. Et les réfugiés politiques n'ont pas toujours été bien acceptés. Après, il y a des autres encore plus proches. Il y en a un qui est très proche, mais qui a été ennemi de la France avec les guerres de 70, de 1914 et la dernière guerre. Et effectivement, ce qui est là, on les a renvoyés. Ils ont envahi, occupé la France. Je parle des Allemands, qu'on a renvoyés précisément à ce qu'on leur reproche depuis toujours, et en l'occurrence c'était ça, leur passé d'envahisseurs. On les a traités de Visigoths ou d'Ostrogoths. Et puis, on a inventé beaucoup de mots nouveaux vis-à-vis des Allemands pendant la période d'occupation. Et puis il y a un autre très proche et qui fait partie de la société française depuis le Moyen-Âge, une sorte d'autre de l'intérieur, et ce sont les Juifs.
Donc ça fait des groupes humains extrêmement différents,
oui,
qui de temps en temps sont nommés de façon insultante, ne serait-ce que par déformation. On trouve ça pas mal, ne serait-ce que pour les nations qui nous sont proches, hein, européennes, où justement on va déformer espagnol, on va déformer italien, on va déformer portugais.
Oui, Portos, Popov, qui est un patronyme russe, Portos, qui est une déformation du nom ethnique des Portugais, et puis Espingo aussi, par exemple.
Espingouin.
Là, justement, ça n'arrive pas à n'importe qui, avec n'importe qui, ça arrive avec des gens qui se sont vraiment mêlés intimement à la société française, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces gens-là sont venus pour des raisons économiques. Ils étaient là, comme les Polaques, par exemple, aussi, que moi j'ai connu dans mon enfance, dans l'est de la France, et ceux-là, bon, on a joué avec leur nom ethnique. Il y a toujours un côté un peu ludique, et puis c'était nos pauvres aussi. Donc c'est toujours une manière de parler de très haut vis-à-vis de quelqu'un qu'on considère et qu'on met très bas par ce procédé-là. Eh bien, c'était des pauvres, les gens qui émigraient pour des raisons économiques.
Donc, dans la façon dont on les nomme, il y a toujours un mépris qui est plus ou moins
condescendant,
plus ou moins plus ou moins violent.
Mais alors, les courants racistes, ils ont fait naître beaucoup de mots. L'invention est, je veux dire, nous avons été très inventifs. Hein.
Mais avant même cette invention, Marie Treps, c'est vrai qu'on peut voir que de temps en temps, il y a des mots qui désignent un peuple, qui désignent une population, et selon le contexte ou selon l'adjectif qu'on met avant, c'est péjoratif ou pas. Le mot arabe, par exemple, au départ, et aujourd'hui encore d'ailleurs, pas seulement au départ, il n'a absolument rien de péjoratif. Vous le mettez dans une certaine phrase, vous lui mettez un certain ton, ou simplement vous mettez un adjectif d'abord.
Sale,
et vous dites ça à l'arabe, c'est l'insulte infecte. Que arabe est neutre.
Arabe est un mot neutre. Mais il y a, si j'allais dire, il y a une autre chose. C'est-à-dire que, par exemple, on a détourné des noms ethniques qui étaient des beaux noms, comme le mot bougnoul. Le bougnoul, c'est un terme wolof qui veut dire noir. Donc, en fait, c'est le nom d'une population. Et puis, on en a... Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées par l'infanterie coloniale, c'est le cas. Et ensuite, le mot est appliqué aux personnes eux-mêmes. On a entendu, au début, on les a entendus se nommer comme ça, les uns les autres, de dire, tiens, bon, on va les appeler les bougnoules. Seulement, après, avec la colonisation, une fois installées, les choses, des mots même innocents, même anodins au début... s'alourdissent et finissent par être violemment racistes.
Oui, parce qu'ils ont une histoire dans le lexique français, dans la langue française. Il y a des mots qui sont neutres et qui peuvent ne plus l'être selon le contexte. Et puis il y a des mots qui, en français en tout cas, sont toujours péjoratifs. Bougnoul, c'est immonde. C'est toujours immonde en français.
Maintenant, ça l'est toujours. Ouais. C'est toujours immonde, alors qu'au départ, ça ne l'était pas. Ils sont nombreux, ces mots-là.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai essayé de refaire l'histoire de ces mots-là, pour comprendre le problème, en fait. Mmh. D'où ça vient, comment c'est passé, par qui, comment ça s'est aggravé, avec quels événements.
Et comment, de temps en temps, le mot se scinde de son origine. Ça, on le voit à plusieurs reprises, d'ailleurs, de voir, par exemple, pour les Allemands, les Boches. Ça fait longtemps qu'on les appelle les Boches. Ça date de la fin du 19e ou du début du 20e, je crois. Oui. Et qu'est-ce que c'est, au départ? Ce sont les alboches.
Les alboches. Mais avec il y a quelquefois des subtilités, même quand les mots sont faits comme ça de manière, pas par quelqu'un de particulier, avec le mot caboche. C'est-à-dire des têtes dures. Et c'était employé dans le vocabulaire des imprimeurs. Les premiers imprimeurs en France étaient dans la région Messine. Et à ce moment-là.
Dans la région de Metz, donc dans l'est de la France.
Dans la région de Metz,
qui
parlait peut-être pas très bien français, il y avait des Allemands qui travaillaient chez les imprimeurs et on les a comprenaient pas bien ce qu'on leur disait, donc on les a traités de on a mélangé alboche qui est
une
manière dépréciative
c'est une déformation
d'allemand,
c'est une resuffixation comme on dit péjorative, allemand alboche,
mais pas avec n'importe quel mot, avec le mot boche qui veut dire caboche, tête, celui qui a la caboche à
bien mesure. Sûr, et voilà. On a quelque chose de presque semblable,
c'est subtil,
avec avec arabe qui devient arbi. Et là, c'est déjà quand même beaucoup plus dépréciatif, arbico, et qui va donner bico, parce qu'on laisse tomber la première syllabe.
On laisse tomber la première syllabe, et en même temps, du coup, d'une pierre deux coups, on déshumanise l'autre, on en fait un animal.
Bougnoul, Niakwe, Raton, Youpin, Kouya, Gringo, Rasta, Rikin, Polak, Hugo, Shinton, Pékin. Niakwe, négro, blanc, blanc, bouquin. Métèque, moko, ordure, putain. Rital, macro, macaque, chien. Moelle-neu.
Ok, quitte cet hymne à l'amour un peu particulier qui est celui de Jacques Dutronc pour revenir dans la danse des mots à ces maudits mots auxquels Marie Treps vous consacrait un ouvrage. Alors, avec quelles images est-ce que justement cette inventivité lexicale, est-ce qu'elle fonctionne ? Avec quelle image on fabrique des mots ? De temps en temps, c'est des images tout à fait physiques, c'est de la caricature, quoi.
Ah oui, pour stigmatiser l'autre, vous voulez dire. Oui. Eh bien, bien sûr, on peut prendre un trait physique, on va appeler les bridés,
les asiatiques,
les bronzés, oui, pour les gens qui viennent du Maghreb. Aussi beaucoup ce qu'on mange, les macaronis pour les Italiens, les bols de riz ou les mangeurs de chiens, pire pour les Chinois, les bols de riz pour les Japonais. Ça, c'est des procédés classiques.
Il y a des modes de mots, parce que c'est
des
vrai
procédés
que...
classiques de l'argot.
Oui, absolument.
Général,
les macaronis, c'est une insulte que moi j'ai pu entendre quand j'étais petit.
Ah, moi aussi.
Je me souviens pas tellement l'avoir entendu depuis 15 ou 20 ans.
Il y a des gens qui se souviennent l'avoir entendu.
Oui.
Parce qu'ils en ont été victimes, en quelque sorte. Et j'ai trouvé, il y a beaucoup d'exemples dans ce livre, parce que je voulais mettre en situation ces mots-là. Sinon, je m'en suis tenue au principe du dictionnaire, des définitions neutres. Mais après, il y a la chair, il y a l'horreur de la chose, ou quelquefois à la drôlerie, par exemple, ça existe aussi, mais qui est, par exemple, je pense aux mots vis-à-vis des Allemands. Mais, il y a, parmi les nombreux exemples, j'ai cité une ou deux fois Aurélie Filippetti, qui a vécu dans l'Est de la France, et qui parle de, qui récupère le mot macaroni pour, nommer sa communauté, la communauté à laquelle elle appartient, celle des Italiens.
Alors, c'est aussi l'un des avantages de votre livre, qui se lit avec beaucoup d'intérêt, parce que il est fait d'un certain nombre de raisonnement, d'études, mais en même temps, il y a énormément d'exemples, qui sont des exemples écrits. Pas uniquement des exemples littéraires, mais il y en a beaucoup, puisque vous remontez, le premier, il doit dater du 9e siècle, je crois, à peu près. Enfin, il doit être plus ou moins contemporain des sermons de Strasbourg.
Ah oui. Après, dans la littérature,
ancien.
Le premier, c'est Ronsard.
Et puis c'est Ronsard.
Avec
oui,
les
oui.
Juifs, oui.
C'est Ronsard qui parle des Juifs. Et puis, il y a beaucoup d'extraits littéraires du 19e siècle, beaucoup du 20e siècle. Et vous allez jusqu'à un certain nombre de, oui, de citations qu'on trouve sur le net, qu'on trouve dans des forums d'échange, etc. Alors, bien sûr, vos exemples viennent d'une langue écrite, mais qui, de temps en temps, est au plus proche d'une langue orale. Ne serait-ce d'ailleurs que pour vos citations littéraires, qui très souvent vont chercher dans un écrit qui imite l'oral. Il y a beaucoup de Céline, par exemple. Alors c'est vrai que pour l'insulte raciste, lui, il était un petit peu champion.
Oui.
Mais en même temps, il écrivait, j'allais dire comme on parle. Non, il n'écrivait pas comme on parle, mais c'est l'un des premiers qui a injecté beaucoup d'oral dans une écriture très littéraire.
Mais il y a le fait que ces mots-là sont, hélas, des mots de dialogue. Donc c'est très vivant, les dialogues. Et les dialogues, c'est de la langue orale, qu'elle soit soutenue ou pas, revue ou corrigée par la littérature. Mais effectivement, ces mots-là, on les entend dans les dialogues de tous les jours. Mais il se passe aujourd'hui quelque chose... En fait, ce sont des mots de l'intimité, des mots qu'on emploie entre soi. Mais aujourd'hui, comme ils passent par Internet, par la presse écrite, à l'occasion même des procès qui sont faits comme le racisme, il y a un effet délétère. C'est-à-dire que ces mots-là, ils perdurent. Ils sont pérennisés par ces phénomènes-là.
Et il y en a qui sont extrêmement ambigus. On parlait tout à l'heure des mots qui, au départ, sont neutres et qui ensuite ne le sont plus. Il y a des mots qui ont été à la mode parce que, au départ, ils correspondaient à une espèce de, j'allais dire, d'euphémisme qui voulait dire « Ah, je ne suis pas raciste ». Et ils peuvent se retourner. On a par exemple ce drôle de couple juif-israélite. Quand on parlait d'israélite au 19e siècle, c'était plutôt pour se démarquer de l'antisémitisme. Mmh. Et puis, cette façon de parler un peu froide, un peu, a été reprise par les antisémites.
Oui, bien sûr. Alors, les mots juifs sont peu nombreux. Même si c'est passé par l'image au départ. Ce qui m'a intéressé, la sémiologue que je suis, là, dans les cathédrales, les sculptures de la synagogue représentée comme une femme aveugle. Les mots horribles, youpin, youtre, apparaissent au 19e siècle. Et en même temps, apparaît au 19e siècle, au moment où Drummond est là, avec la presse antisémite.
Oui, Drummond qui a été l'un des grands chantres de l'antisémitisme
siècle, voilà,
au tournant du 19e.
L'affaire Dreyfus. Par exemple, à ce moment-là, les gros mots, les maudits mots sont là, bien sûr, et ils sont abondamment utilisés, mais dans la société, dans la bonne société, on veut essayer de prendre les choses avec des pincettes et on invente, enfin, on recourt à israélite. Et puis, la vocation des mots étant, de ces mots-là étant de s'alourdir quand même, aujourd'hui, ben, on ne va peut-être plus dire youpin, de toute façon, même les amuseurs publics ou les hommes politiques qui le diraient vont écoper d'une amende. C'est interdit aujourd'hui.
C'est interdit, encore qu'on se le permet peut-être plus qu'il y a 10 ou 15 ans.
Ben, c'est-à-dire, non, il y a aussi, on va le faire avec, en introduisant de l'humour. Hmm. On va trouver
des guillemets oraux, quoi.
Peut-être qu'il y a, pas plus qu'au 19e siècle.
Mais ah non, peut-être plutôt moins qu'au 19e siècle. Mais moins, il y a eu quand même tout un moment après la guerre. Où il y avait un tabou très fort. Ce tabou se lève, malheureusement.
Et aussi, alors on ne veut plus employer ces mots-là, ou alors si on les emploie aujourd'hui, certains veulent se démarquer, on va prendre israélite. Mais israélite, comme vous dites, il peut glisser sur la mauvaise pente.
Il a glissé dans les années 20-30.
Voilà, oui. Ça dépend de... C'est comme des choses qu'il faut... Le mot m'échappe, là.
On fait semblant de prendre ça avec des pincettes. Mmh. Vous voyez comme j'en parle, un israélite. Alors qu'il y a un côté beaucoup moins direct. C'est pour ça, peut-être, que ça a été repris par un antisémitisme de salon, qui n'était pas moins violent que les autres.
Bien sûr, bien sûr. On peut, avec un mot correct, il suffit d'être dans le bon contexte. Et... Il suffit de parler par insinuation pour être compris, puisqu'on vit dans une culture du racisme très anciennement installé. Alors, même les mots corrects peuvent finir, enfin...
Bien sûr. Et puis, il y a certains mots, et là, je pense à des mots plus récents, des mots du verlan, beurre, et plus encore, feuge. Beurre, c'est le verlan de arabe, qui a été surverlanisé en rebeu.
Voilà.
Feuge a été formé sur juif. Feuge, en général, au départ, était plutôt méprisant, plutôt raciste, mais en même temps, il est très souvent repris avec ce phénomène de fierté qui se réapproprie le nom qui stigmatise et qui méprise.
Bien sûr, c'est ce phénomène qui existe et qui fait que, même aussi les mots comme Polak ou Rital, quand on lit les ouvrages de Kavanagh, bon, bah, il les a repris. C'était une manière aussi de fierté, peut-être.
Et il faut faire avec le mépris qui vous entoure.
Oui,
on a la même chose avec les Noirs. Hein.
Une manifestation d'humour aussi. Avec le mot nègre, qui est tout à fait banni, qui a été remplacé par noir, qui pose encore un problème, majuscule, minuscule. Quand on a posé la question au président du CRAN, Henri Georgetin, on lui a dit, vous avez écrit noir avec une majuscule, c'est une décision politique, c'est pour montrer, pour bien appuyer sur le fait que le peuple noir existe. Et il a répondu avec humour, et c'est une bonne réponse. Non, je pensais simplement appliquer une règle grammaticale. Ces mots-là poseront toujours problème. Alors, on va enlever noir maintenant, on propose gens de couleur. Et j'ai même entendu récemment une interview d'un anthropologue, tout à fait convenable, qui, pour ne pas dire noir, il a dit personne d'apparence différente. Ça devient encore plus
devient ridicule chez les gens qui
et
savent
horrible.
Pas. Mais oui,
et
c'est terrible parce que c'est le politiquement correct.
Le problème,
qui prend le
pouvoir. Il est là. Il faut pas montrer que ça nous démange, ça nous gratte, ça nous voilà. Mais il réapparaît, quoi, de manière inconsciente, en fait.
Et c'est vrai que de temps en temps, en tout cas à propos des Noirs, on a recours à une sorte d'anglicisme, on dit les Blacks, parce qu'à ce moment-là, c'est pas méprisant.
Oui, le côté chic de l'anglais.
Et il y a l'ombre américaine qui est là,
exactement.
Presque protectrice et en tout cas prestigieuse. Merci beaucoup Marie Treps pour ces maudits mots qui viennent de sortir aux éditions Tohu Bohu. C'est l'heure de ma parole.